C'est notre deuxième cours sur le chapitre 32, un chapitre ô combien important et ô combien central dans l'idéologie du mouvement Chabad.
Ô combien difficile.
Mais qui est difficile, très difficile. C'est difficile, c'est facile peut-être en théorie, mais il est très difficile au niveau concret. Donc pour résumer ce qu'on a expliqué, et surtout comme aujourd'hui c'était la Hiloula de l'épouse du Rabbi, qui était connue aussi pour sa Ahavat Israël, son amour du prochain. Donc Bezrat Hashem, dans le cours, on essaiera de parler de ça aussi, de l'amour du prochain. Juste pour, puisqu'on parlait de l'amour du prochain, je vais commencer par une anecdote. La femme du Rabbi, l'épouse du Rabbi, la rabbinite Chaya Mouchka, d'accord. On parle d'une rabbinite, puisque vous savez que c'est une rabbinite qui n'a pas laissé d'enfants. Et lorsqu'elle est partie de ce monde, le Rabbi a demandé d'annoncer aux shluchim de Chabad dans le monde, ainsi qu'aux élèves de la yeshiva, parce qu'elle considérait les élèves de la yeshiva et les Chabad en général, enfin les Chabad, le Ham Israël, comme ses enfants. Vraiment, elle les traitait comme ses enfants. C'est pour ça que puisqu'elle nous traitait comme ses enfants, donc c'est important de parler d'elle. Alors justement, je voulais parler de Sahavat Israël, l'amour du prochain qu'elle avait. La rabbanite, elle aimait se balader dans des endroits où personne ne la connaissait. Parce qu'elle avait un passe-temps favori, c'est qu'elle aimait aller dans un parc spécifique à New York, où elle allait pour réfléchir, s'asseyer sur un banc, à côté de, je sais pas, il y avait là-bas un lac avec des cygnes, je sais pas ce qu'il y avait là-bas, bonsoir. Et elle s'asseyait, non, c'était pas Central Park, il y avait place, là. C'est la taverne. Un style de parc Montsouri, voilà. Et donc, j'ai jamais été à ce parc, mais apparemment c'est un style de parc Montsouri, ouais, voilà, on peut dire ça. Et donc, elle aimait aller dans ce parc pour aller prendre l'air, pour aller réfléchir, etc.
Ça, c'est bien.
Et une fois, lorsqu'elle était... Donc, chaque jour, elle avait... elle devait aller, je ne sais pas, une fois, deux fois par semaine. Chaque fois qu'elle allait, il y avait une route très spécifique. Il y avait une route aller, une route retour. Une fois, la route du retour, elle était avec le chauffeur. Et à un moment, il y a un blocage sur la route, je ne sais pas, il y a des travaux, un truc comme ça. Donc, ils sont obligés de prendre une déviation. Ils prennent la déviation. Et quelques minutes après, donc ils n'étaient pas dans la route habituelle, et ils passent à côté d'un camion. Un camion de déménagement. Et ils voient des gens en train de... C'est pas des employés, quoi. Des déménageurs. En train de prendre des meubles. En train de le mettre dans un camion. Et une famille à côté, avec un homme, une femme, des enfants, en train de pleurer. Le chauffeur a continué à avancer. Alors après, la rabbinite, elle dit au chauffeur, elle lui dit, mais est-ce qu'on peut retourner? J'aimerais voir ce qui se passe là-bas. Elle lui dit, mais pourquoi vous voulez retourner? C'est même pas qui c'est même pas notre roue, etc. On connaît personne, on le connaît pas. La rabbinite, elle a dit, mon père m'a appris, donc son père c'est Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent de Lubavitch, mon père m'a appris que Dieu guide les pas d'un homme. Et lorsque Dieu modifie quelque chose dans notre emploi du temps, c'est qu'il y a une raison. Si Akadosh Baruch Hu a fait que notre itinéraire habituel était bloqué pour cause de travaux, c'est qu'on devait passer par cette route et que je devais voir ce qui s'est passé là-bas, il faut qu'on s'arrête. Donc, il rebrousse chemin, il retourne, le camion de déménagement est toujours là. Et, bon, elle voulait pas trop, elle aimait pas être au devant de la scène. Elle demande au chauffeur, est-ce que ça vous dérange pas d'aller voir ce qui se passe? Voir ce qui se passe, pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on se rend compte qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une famille de juifs russes qui était arrivé aux États-Unis depuis quelques années, et qui malheureusement les derniers mois n'avait pas de quoi payer le loyer. On les a prévenus, etc. Ils payaient pas le loyer. Alors à la fin, ce qu'on leur a dit, on leur a dit, ben écoutez, on va vous expulser. Donc c'est pour ça qu'ils pleuraient. Alors la rabbinite, quand elle a entendu ça, elle a demandé au chauffeur, elle lui a dit, demandez-leur c'est combien. Et c'était pas du tout une dame coco, hein. C'est-à-dire, c'est pas du tout quelqu'un qui est là, je paye, hein. C'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout son style. Elle a dit, demandez-leur combien c'est. On a demandé combien c'est. C'était une somme assez importante, c'est plusieurs mois de loyer, quoi, c'est important. Tout de suite, sans les connaître, elle a sorti son carnet de chèque, elle a fait le chèque, et l'autre, il a demandé au déménageur, il a dit, bon, bah, vous ramenez tout le mobilier. Maintenant, c'est des gens qu'elle connaissait même pas, et le pire, c'est qu'elle a dit, au Rav, au chauffeur quoi, qui conduisait, elle a dit, je ne veux pas qu'on sache que ça vient de moi. Elle a dit, tu donnes le chèque, tu t'arranges que c'est réglé, et on s'en va. Et ils sont partis. Ça veut dire que ça, c'est une histoire que le chauffeur a racontée, après le départ de la rabbanite, pour montrer qui elle était. Et c'est quelque chose que, on sait même pas qui est cette famille, on sait même pas comment c'est passé, pour montrer la Avat Israël. Moi, je trouve que cette histoire me parle beaucoup, parce que dans cette histoire, on voit beaucoup de mitzvot. D'abord, on voit la mitzvah de Tzedaka, Tzedaka qui est cachée. Et on voit surtout une grande, grande Avat Israël, l'amour du prochain. Et c'est quoi l'amour? L'amour du prochain? L'amour du prochain, c'est considérer que celui qui est en face de moi, c'est comme un frère juif. Et quand c'est un frère juif, on se pose pas de questions. On aide et c'est tout. Quand tu as ton frère qui est en galère, même si tu veux lui poser des questions, mais pourquoi tu t'es mis dans cette galère? Mais il est en galère, tu vas le laisser en plan. Il est en galère, tu l'aides, c'est tout. Maintenant, après on verra si c'était justifié ou pas justifié, est-ce qu'il aurait dû payer le loyer ou pas payer le loyer. Une autre question. Il est en galère, il faut l'aider. D'accord? Ça c'est le Ahavat Israël. Et on a vu dans plusieurs épisodes de la vie de... J'ai un téléphone qui sonne là. On a vu comme ça dans plusieurs épisodes de la vie de la rabbanite Chaya Mouchka, l'épouse du rabbi. On a vu plusieurs épisodes dans lesquels on a vu qu'elle avait cette grande Avat Israël. Alors, on aura Bezrat Hashem dans le cours d'aujourd'hui plusieurs anecdotes sur elle, Bezrat Hashem, que j'essaierai d'insérer. Mais juste encore un dernier point. Lorsqu'il y a eu le Nihum Avelim, c'est-à-dire que lorsque le rabbi a perdu son épouse, pendant la semaine qui a suivi, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont venues le voir, de tous les courants. Et pas que des juifs, même les goïms, tout le monde. Et à un moment, il y a eu le maire de New York de cette époque qui est venu donc consoler le rabbi. Et bon, pour commencer la discussion, il a dit: j'ai entendu que votre épouse était une grande dame. Oh, c'est une phrase sympathique, quoi. J'ai entendu que votre épouse était une grande dame. Et le rabbi lui a dit la phrase suivante. C'est filmé, hein. Il lui a dit: les qualités de mon épouse, ni moi je les connais, ni vous les connaissez, il n'y a que Dieu qui les connaît. Il a dit sorti cette phrase. C'est-à-dire que c'était une très très grande dame. Et une des qualités principales qu'elle avait, c'était Avat Israël. Voilà. Maintenant, dans le cours de la semaine dernière, on s'est arrêté sur l'importance de Avat Israël, sur l'importance de l'amour du prochain. Et on a expliqué un point très important. Si on conclut en un mot ce qu'on a expliqué la semaine dernière, on a expliqué que si j'analyse mon frère juif par rapport à son corps, là effectivement, il est différent. Et là effectivement, je peux dire, celui-là j'aime, celui-là j'aime pas. Celui-là je supporte, celui-là je supporte pas. Effectivement, on a expliqué la semaine dernière brièvement que... naturellement et instinctivement, on donne des points à ceux qui sont autour de nous. On donne des points TS, dans le sens que chaque personne qui est autour de moi, instinctivement, je me donne des points. Je dis bon, lui il est plus important, lui il est moins important. Et c'est instinctif, c'est comme ça. Même un enfant, c'est comme ça. Par exemple, un enfant, comment on achète un enfant? Avec des bonbons. C'est-à-dire que quand il y a un enfant, il vient à la synagogue, il voit une personne qui donne des bonbons, celui-là il a 100 points. L'autre il n'a pas de bonbons, il a 0 points. C'est comme ça. Ça veut dire que c'est des points. Depuis qu'on est petit, depuis qu'on est dans le ventre de la maman, on est habitué à donner des points. C'est-à-dire, lui, il m'intéresse, lui, il m'intéresse pas.
C'est un jugement.
Pourquoi? C'est un jugement. Mais on donne des points. C'est vraiment des points. C'est-à-dire, 100 points, 50 points, 10 points. On donne des points et par rapport à ça, on va estimer. Est-ce qu'il est plus important pour moi? Est-ce qu'il est moins important pour moi? Alors, en fait, on a expliqué la semaine dernière, que effectivement, si on analyse une personne par rapport à son corps, là, effectivement, là, dans ce cas-là, on peut pas aimer tout le monde. Il y a des gens que par rapport à leur corps, on peut pas les aimer. Surtout une personne qui se comporte mal, comment tu veux que je l'aime? Mais la Gemara Zaken a expliqué, il a dit, un juif doit s'habituer à aimer son frère juif par rapport à sa neshama, par rapport à son âme. L'âme de mon frère, je la connais pas. Je sais pas qui il a. C'est possible que c'est un rachat, mais qu'il a une âme de tzaddik. Je sais pas quelle âme il a. D'autant plus qu'au niveau de l'âme, on est tous des frères. Au niveau du corps, on est différents. Il y a mon corps, il y a ton corps, on est tous différents. Et pas seulement qu'on est différents, chacun de nous a été créé unique. Mais au niveau de l'âme, on est tous les mêmes. On se ressemble beaucoup. D'accord? On avait expliqué la semaine dernière, on avait raconté l'histoire avec ce qui se disait de rabbi en rabbi, hein, à Menton, vous vous rappelez l'histoire de Menton? Et il avait dit là-bas que le niveau le plus élevé, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un niveau quand on va raffiner son corps, on va éclairer son âme, etc. Mais le niveau le plus élevé qu'on pouvait avoir, c'est quoi? C'est quand un juif, il va penser à ce qui se passe chez un autre juif. Ça veut dire que, par exemple, hein, c'est des choses simples. Il ne faut pas chercher les choses compliquées. C'est des choses simples. Par exemple, je suis assis à un cours de Torah. Quelqu'un à côté de moi. Je suis assis à la synagogue. Je suis assis à un kiddush. Quelqu'un qui est assis à côté de moi. Est-ce que je me soucie comment il va? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce que je me rends compte qu'aujourd'hui, qu'il a maigri un petit peu, qu'il a l'air pas bien, qu'il a l'air triste, qu'est-ce qui se passe, qu'il a l'air même joyeux? Même joyeux. Je dis, mais pourquoi t'es joyeux aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me rends compte? Est-ce que je prends le temps de me poser la question, de me dire qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui arrive? Gilad Morazaken, quand tu analyses une personne par rapport à sa neshama, tu arrives à accorder de l'importance à tout le monde, même à celui que tu connais pas, et même à celui que par rapport à ton corps, tu penses qu'il faudrait pas l'aimer. Donc, pour conclure, la Gemara Zaken avait dit qu'il y a deux types de personnes. Il y a des gens pour lesquels leur corps est essentiel et leur âme est secondaire. Ces gens-là, ils peuvent pas avoir de vrai amour. On avait expliqué la semaine dernière que ces gens-là, ils peuvent pas aimer leurs frères juifs, même pas aimer leurs femmes, même pas aimer leurs enfants. Celui pour qui son corps est essentiel et son âme est secondaire, ça veut dire que tout ce qu'il va aimer, il va l'aimer par rapport à son corps. Tout ce que je vais aimer, je vais aimer par rapport à mon corps. C'est-à-dire maintenant, je l'aime, je le mange. Je l'aimerai plus, je le mangerai plus. Maintenant, j'aime mon fils parce qu'il donne des bonnes notes, tant mieux. Il donne plus des bonnes notes, je le supporte plus. J'aime ma femme, très bien. Je l'aime plus parce que je le supporte plus, eh ben je l'aime plus. Celui qui réfléchit d'une façon que son corps est principal, son corps est essentiel et son âme est secondaire, il peut pas aimer une autre personne. Il peut pas l'aimer d'un amour qui est inconditionnel. La seule façon d'aimer une personne, son frère, d'accord, sa femme, ses enfants, son ami, tout ce que tu veux, la seule personne de l'aimer de façon inconditionnelle, c'est en disant et en me travaillant sur le fait que mon âme est principale et mon corps est secondaire. Et ça, c'est un travail, on peut arriver à ce niveau-là. Avec ça, on va comprendre pourquoi, et là, c'est là qu'on commence le cours d'aujourd'hui. Avec ça, on va comprendre pourquoi, donc on est dans les mots A, il est les chamaïs. Page 84. Et là, on aura pas mal d'histoires aujourd'hui, parce que c'est un cours dans lequel il y a... Je vous avais prévenu la semaine dernière que ce cours, on prendra le temps qu'il faut pour le faire. Même s'il faudra faire 10 cours dessus, on fera 10 cours sur ce chapitre. Hein. C'est un chapitre, il faut prendre son temps. Pour continuer, on va raconter une histoire. Une histoire qui est très connue, qui est racontée dans la Gemara Shabbat, page 31. La Gemara raconte qu'une fois, il y avait un guerre. Donc une personne qui voulait se convertir. Qui est venu voir Shammai et qui lui a dit enseigne-moi la Torah sur un pied. Combien de temps pouvait tenir comme ça, voilà. Enseigne-moi la Torah sur un pied. Alors bien sûr, bon, Shammai quand il a vu ça, il se lui a laissé un rigolo. Il avait Amat Abinyan. Amat Abinyan, c'est comme un maître avec lequel on calculait. Un maître. Bon. Il l'a mis dehors, comme ça. Il l'a poussé, il l'a mis dehors. D'accord? Donc Shammai, il l'a mis dehors. Pourquoi? Parce que Shammai est rigoureux. Il l'a poussé, parce que, d'ailleurs, pourquoi il l'a poussé avec le Amat Abinyan? Parce que Shammai, c'est celui qui calcule tout le temps. Et avec quoi il l'a poussé? Avec un maître. Le maître, c'est le symbole aussi de calculer tout le temps. Bon, il y a beaucoup de sodotes, beaucoup de secrets. Ensuite, il est revenu voir Hillel. Et donc, le deuxième, il est parti voir, il dit, ça m'a pas marché, Shammai, il est parti voir Hillel. Et Hillel lui a répondu la chose suivante. D'abord, il l'a accepté, il a parlé avec lui. C'est très bizarre comme histoire, parce que non, quand on voit aujourd'hui les complexités pour se convertir, on se dit, mais là, une personne qui vient, il veut se convertir sur un pied. Bon, évidemment, c'est particulier, il y a beaucoup de commentaires dessus. Hein. Bon, c'est particulier, d'accord. Mais en tout cas, Hillel l'a accueilli. Hillel l'a accueilli. Et il lui a dit, donc il lui a reposé la même question. C'est comme un test, en vérité. Il lui a dit, je veux me convertir, mais je veux que vous m'enseigniez la Torah sur un pied. Toute la Torah sur un pied. Et là, il lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit comme ça, il lui a dit très simple. Je vais vous lire en araméen. Man de alarsane, la chaverach lo ta'avit. D'accord? C'est pas ici, hein, je vais en dire après. Il a dit, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ce que tu aurais haï qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Donc, c'est la misère de Avat Israël. C'est la misère de l'amour du prochain. Et il lui a dit, cette mitzvah, c'est toute la Torah, et tout le reste, c'est le commentaire de cette mitzvah. D'accord? Donc, en fait, comment il s'en est sorti? Il lui a dit, tu voulais apprendre toute la Torah sur un pied? Voilà. Sur un pied, je t'ai dit, je sais même pas. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Tout le reste, c'est le commentaire, donc tu peux poser ton pied, maintenant il faut prendre le commentaire, et les autres, c'est les autres, ils sont 12 mitzvot. A priori, c'est très étonnant ce qu'a dit Hillel, parce que Hillel, c'est pas je veux dire, bon, bien sûr qu'il a dit ça par allusion, mais, La réponse qu'il a donnée est une bonne réponse. C'est une réponse importante qui est écrite dans la Gemara. C'est pas cette une histoire qu'on raconte pour dire, bon, il a trouvé une belle technique pour se débarrasser de ce monsieur-là. D'ailleurs, il y a plusieurs légendes. Qui était ce monsieur qui s'est converti? Il y a des légendes qui disent que ce monsieur qui s'est converti est devenu par juste un très grand maître en Torah. Dans la Gemara. Ben, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, Hillel, qu'est-ce qu'il lui répond, Hillel? Hillel lui répond, il lui dit, l'amour du prochain, c'est l'essentiel et tout le reste, c'est le commentaire. C'est faux. C'est faux. On a deux types de mitzvot. On a des mitzvot entre les hommes, ben Adam la Chavero, et on a des mitzvahs ben Adam la Makom, des mitzvahs entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Comment la mitzvah d'aimer son prochain est la base des mitzvahs entre l'homme et Dieu? On est bien d'accord. Il a répondu, il a dit, la mitzvah de Avat Israël, c'est la mitzvah principale, Zehu kol haTorah kula. D'ailleurs, on verra plus tard, Rabbi Akiva dit, Ve'avta le'racha kamocha, zeklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe dans la Torah. Hein, c'est un peu différemment. Mais il a dit beaucoup plus fort. Il a dit, Zehu kol haTorah kula, c'est toute la Torah. Comment c'est toute la Torah? C'est faux. Aimer son prochain, c'est pas toute la Torah. Et même si on va dire que c'est toute la Torah, ça n'inclurait que les mitzvot, on va dire, horizontales, d'accord? Les mitzvot entre l'homme, entre les hommes. Mais ça n'inclut pas les mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Par exemple, quel rapport entre la mitzvah des téfilines et la mitzvah d'aimer son prochain? Quel rapport entre la mitzvah des titites et aimer son prochain? Quel rapport entre le Shabbat, la Brit Mila? Quel rapport avec la mitzvah d'aimer son prochain? D'accord? Alors, Rashi, dans son commentaire sur la Gemara, il touche à cette question. Tiens, Abraham, tu vas venir m'asseoir à Shabbat parce qu'on est là. On va profiter qu'on est à la choule. Excuse-moi de te déranger. Je l'aurais fait, mais je suis.
Tu t'es voilé?
Voilà. La petite, c'est bon.
Il a trouvé la petite.
Alors, merci. Alors, il y a le commentaire de Rashi et le commentaire de Marsha. Il faut bien comprendre ça. C'est Gemara Shabbat, la femme Aleph. Voilà. Donc, on dit, Hillel, il a converti, et il lui a dit comme ça, « De'alar sané la chavar lo ta'avid » Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton frère, ton ami. Zoï kol la Torah kula. Ceci est toute la Torah. Veidar, zilgmor, et le reste va apprendre. Rashi se pose la question. Il dit, mais comment on peut dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même? C'est la base de toutes les mitzvot. Alors vous savez, comme d'habitude chez Rashi ne pose pas la question. Il donne directement la réponse. Et c'est quand on va voir ce qu'il va dire, qu'on va comprendre ce qui le dérangeait. Qu'est-ce que dit Rashi? Je vais vous lire les mots de Rashi. Rashi dit, Re'acha ve'rea avicha alta azov. Il y a un verset dans Michelet, dans l'Ecclésiaste, qui dit, ton ami et l'ami de ton père n'abandonne pas. Et qu'est-ce que disent là-bas les commentaires? Ze Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est mon ami. Donc quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est qui ton prochain? Ton prochain, ça peut être aussi
ton ami.
Dieu. Puisque le verset dans l'Ecclésiaste, le roi Salomon dit, ton ami et l'ami de ton père, c'est-à-dire celui qui a été ton ami et celui qui a été l'ami de ton père, donc qui est Dieu, ne l'abandonne pas. Donc qu'est-ce que dit Rashi? Al tavor al dvarav, ne transgresse pas les paroles de Dieu. Sheare alecha sanui, sheavor chavecha al dvarecha. Tu vois bien que toi, tu n'aurais pas aimé que ton ami il transgresse ce que tu dis. Alors, de la même manière, Dieu est ton ami, donc ne transgresse pas ce que tu n'aurais pas voulu qu'un copain à toi te transgresse tes paroles. Vous suivez? C'est-à-dire, de la même manière que j'aurais pas aimé qu'un ami à moi transgresse ce que je demande, de la même manière, ne transgresse pas ce que Dieu demande. Donc voilà comment Rashi s'en est sorti. Voilà comment Rashi s'en est sorti pour expliquer que la mitzvah de Avat Israël, d'aimer son prochain, couvre toutes les mitzvot. Comment elle couvre toutes les mitzvot? Les mitzvot humaines, c'est facile. Parce que quand tu aimes ton prochain, automatiquement, tu vas l'aider, automatiquement, tu vas lui donner un tzedaka, automatiquement, tu vas t'occuper de lui. Tout le reste va suivre. Même les mitzvot entre l'homme et Dieu, si je considère Dieu comme un ami, eh ben, automatiquement, ce que j'aurais pas aimé qu'un ami me fasse, je le ferai pas à Kadosh Baruch Hu. Sauf qu'apparemment, Rashi lui-même est dérangé par cette réponse. Parce que c'est un peu dur d'appeler Dieu mon copain, c'est pas mon copain, Dieu.
C'est mon ami.
D'accord, c'est pas mon ami. Hein, mon ami. C'est pas mon ami à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Rashi a un deuxième commentaire. Qu'est-ce que tu dirais? C'est compliqué. C'est un peu. Bon, on a. Bah, attention, parce que Hillel n'a pas expliqué ses paroles, mais il l'a dit. Il a dit Zoï kol haTorah kula. C'est toute la Torah. Kol haTorah kula. Alors Rashi donne un deuxième commentaire. Il dit non. Il dit en vérité, on peut dire que l'ami, c'est. On parle que de l'ami, on parle pas de Dieu. On parle d'un vrai ami, un ami humain, d'accord? Mais il dit, de quelle mitzvah on parle? Il dit qu'en vérité, on inclut la mitzvah de ne pas voler, la mitzvah de ne pas aller chercher la femme de l'autre, et la majorité des mitzvot. La majorité des mitzvot. C'est-à-dire que dans le deuxième commentaire, Rashi dit, bon, bah, effectivement, quand Hillel l'ancien a dit toute la Torah, c'est pas toute la Torah, c'est les mitzvot, seulement les mitzvot humaines. Sauf que là, de Mourazaka, Antania, il dit, c'est difficile d'expliquer ça. Il dit, je comprends pas. Hillel, il a bien dit, on est bien d'accord. Il a pas dit que cette mitzvah est une mitzvah qui est la majorité des mitzvot. Je relis les mots. La Gemara est devant moi. Et dans la Gemara, chaque mot est précis. Il a dit, qu'est-ce qu'a demandé le converti? Celui qui voulait se convertir. Il a dit, apprends-moi toute la Torah sur un pied. Toute la Torah. Hillel lui a répondu, il lui a dit, toute la Torah, c'est que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et tout le reste, c'est des commentaires. Sur cette mitzvah. Je repose ma question. Non, c'est faux. Les mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, ce ne sont pas des mitzvot qui sont liés à Bat Israël. Et dire que Dieu, c'est un ami, c'est un peu difficile. D'accord ? Alors, comment expliquer ça ?
La question du
guerre
dans les mots.
La question du
guerre.
Le guerre, il a dit comme ça. Il a dit l'amdeni. Attends. Non, il a dit comme. Il est venu chez Shammai. Il lui a dit gaireni, convertis-moi. Almenat, à condition, j'étais l'amdeni kol la Torah kula. À condition que tu m'enseignes toute la Torah. Que chez Ani Omed al regel achat, quand je tiens sur un pied.
Donc Shammai l'a renvoyé parce qu'un guerre doit proposer de conditions.
Oui. Et il a converti. Voilà. Après, c'est un autre débat par rapport aux convertis aujourd'hui, etc. C'est un débat que je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, mais il y a des réponses, hein, vous inquiétez pas, je me sens ferme de rentrer dedans sinon. Alors, puisqu'on est déjà dedans, puisqu'on a déjà le texte devant. C'est pas trop mon habitude de sortir une Gemara dans un cours de Tanya, mais pourquoi pas. Alors. Voilà, c'est ici. Alors, ici. Donc, en fait, il dit comme ça, donc ça c'est le marché, il s'arrête, d'accord? Le marché, il s'arrête ici. Bon, après, le marché explique tout un commentaire qui dit pourquoi il dit sur un pied, etc. Qu'est-ce qu'il voulait dire sur un pied? Parce que cette personne-là, il voulait devenir Cohen, enfin, il y a tout un truc là-bas. Alors, qu'est-ce que dit le marché? Voilà. Alors, le marché, il donne une autre réponse, exactement. En fait, le marché, comme d'habitude chez les juifs, pour répondre à une question, il répond par une autre question. Le marché répond une phrase très simple, il dit, on a vu que le début du dialogue de la Gemara était en hébreu. Il lui a dit, enseigne-moi la Torah sur un pied. Et surtout qu'Hillel était à Jérusalem. Donc à Jérusalem, on parle en quel temps ? En hébreu. D'accord ? Donc le dialogue était en hébreu. Ça veut dire qu'il pose la question, il lui dit, convertis-moi, gaireni, almenach, t'amener, galachat. Donc, il parle en hébreu. Shammai le renvoie, sans parler, il met dehors. Hillel, en quelle langue il lui répond ? Il répond en araméen. Pourquoi lui répond en araméen ?
Ça veut pas dire la même chose?
Oui, d'accord. Mais c'est la question du marcha. Marcha, il dit, mais finalement, il lui a répondu, le verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, il aurait pu dire directement en hébreu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'autant plus, il dit, pourquoi il lui dit pas directement, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Pourquoi il lui dit dans la négation, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres? Ben, pourquoi il ne dit pas directement, sous la même forme que la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même? D'accord? C'est la question du marcha. Et sur ça, le marcha, il va dans une autre piste. Le marcha. Marcha, c'est le Rav, comment il s'appelle? Rav Idelis, j'ai oublié son prénom. Rav, pas Yeshayou, comment il s'appelle? Non, j'ai oublié son prénom. Enfin, c'est un grand maître de l'époque du Baal Shem Tov. Non. Bon, peu importe. On verra ça après. Voilà. Changer dans cette Gemara, là. Ah, ils ont pas mis les noms ici. Ils ont mis les noms après. D'accord.
C'est Shmuel, non?
Moi, c'est Raphaël.
Non, Shmuel, Eliezer, Alevi. Idéus. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce que dit le marcha? Le marcha, il dit comme ça. Le marcha, il dit qu'en vérité, là, il va encore dans une autre piste. Il dit en vérité, Hillel voulait parler aux convertis seulement des mitzvot négatives. Comme la mitzvah de ne pas se venger, la mitzvah de ne pas embêter son prochain, la mitzvah, etc. Mais, il a dit, il voulait pas lui parler des mitzvot qui sont des mitzvot du côté positif. Donc le marché va dans une autre piste. Mais je reviens à notre Tania. Le Tania de Morazaken, par sous-entendu, il n'accepte pas ses réponses. Pas qu'il n'accepte pas, mais c'est des réponses importantes, ce qu'on vient de dire. C'est pas n'importe qui, c'est Rachid, c'est le marché, c'est des grands, c'est des géants. Mais la de Morazaken, il va aller plus loin que ça. Il dit non. Il dit si, on a vu que la Gemara a dit que Hillel a dit au converti, il lui a dit toute la Torah, c'est ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Donc, ça veut dire que toute la Torah, c'est ce que tu n'aurais pas quand tu ne le fais pas aux autres. Donc, même le mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Là, vous allez voir comment la Admor HaZaken brillamment va répondre à cette question sur la base du cours de la semaine dernière. Alors, dans les mots. Zéou, en haut de la page 84. Zéou, Shamar, Hillel HaZaken, Alku, Mitzvazo. Voilà pourquoi Hillel, l'ancien, a dit à propos de l'accomplissement de cette mitzvah, la mitzvah 2. Ahavat Israël, la mitzvah d'aimer son prochain. Il a dit, Zéou, kol la Torah kula, que cette mitzvah, c'est toute la Torah. Veidar, pirushaou. Et le reste, c'est que le commentaire. D'accord? Qui a dit ça? Il est l'ancien. Ok? Il est l'ancien a dit ça. Pourquoi? Comment on peut dire c'est toute la Torah? Comment on peut dire c'est toute la Torah? Alors c'est très simple. Parce qu'en vérité, ce que dit l'Admor HaZaken, il dit c'est très simple. Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer dans le cours la semaine dernière et que je viens de faire le résumé? La seule façon possible d'aimer son prochain, c'est comment? C'est, je dois faire en sorte que ma neshama est plus essentielle en moi que mon corps. Ça veut dire que la neshama, donc l'âme, doit être plus importante et plus forte que la matière. Il y a toujours un combat en moi entre la matière, d'accord, et l'esprit. La matière, c'est mon corps, l'esprit, c'est la neshama. En général, malheureusement, ce qui se passe, c'est que la matière est plus forte que l'esprit. Mais on a expliqué que pour arriver à un vrai amour du prochain, je suis obligé de faire en sorte que l'esprit soit plus fort que la matière. On a dit, parce que sinon, tu peux pas aimer ton prochain. Pour réellement aimer son prochain du fond du cœur, il faut que mon esprit soit plus fort que ma matière, sinon ça marche pas. Mais maintenant, on comprend. Maintenant, on comprend pourquoi cette mitzvah est une mitzvah essentielle. Puisque toutes les mitzvot, c'est comme ça. Dans toutes les mitzvot, même la mitzvah comme mettre les tefillin, mettre les tzitzit, faire la brit mila, le shabbat, la kashrout, c'est quoi le but de ces mitzvot? C'est de faire en sorte que la neshama soit plus forte que le corps. De faire en sorte que l'esprit soit plus fort que la matière. Donc la mitzvah de Ahavat Israël, c'est une mitzvah qui est mamash centrale. C'est un indicateur. On te dit, regarde, c'est très simple. Si tu arrives à aimer n'importe quel juif, ça veut dire que tu as réussi à faire un travail en toi, tu as réussi à faire en sorte que ton âme est plus forte que ton corps, que ton esprit est plus fort que ta matière. Si tu as réussi à faire en sorte que ton esprit est plus fort que ta matière, tu peux attaquer n'importe quelle mitzvah. N'importe quelle mitzvah, parce que le but de toutes les mitzvahs, c'est ça. C'est de faire en sorte que l'esprit va être plus fort que la matière. Sur ça, Maïmonide s'arrête beaucoup sur ça dans le guide des égarés. Et le Maharal de Prague aussi s'arrête beaucoup dans ses commentaires. Parce que n'oubliez pas que Tania est basé sur des grands maîtres, les écrits principalement du Maharal et aussi beaucoup les écrits de Maïmonide. Et les deux insistent beaucoup sur ça dans leurs commentaires pour expliquer que le but des mitzvot est d'apprendre à nous travailler sur nous-mêmes. Surtout dans la paracha de cette semaine, pour faire un rapport avec la paracha de cette semaine, la paracha de cette semaine c'est la paracha Mishpatim. La paracha Mishpatim est une paracha qui est très riche en mitzvot. Très très riche en mitzvot. D'accord? Avraham peut nous le confirmer, puisque son fils il a préparé cette paracha. Mazel tov pour avoir mitzvah. Donc c'est ce soir. Donc c'est une paracha qui est pas facile. Et c'est une paracha, on peut dire que pratiquement sur chaque mot et chaque lettre de cette paracha, il y a un développement dans la Gemara pour dire pourquoi on a dit ce mot et pourquoi on n'a pas dit ce mot. C'est-à-dire que la majeure partie des Gemarot, toutes les babot, baba metzia, baba kama, baba tra, etc., la majeure partie de ces Gemarot est basée sur quoi? Est basée sur la paracha de cette semaine. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la paracha de cette semaine, on pourrait dire, bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est une paracha, c'est une paracha civile. C'est des lois civiles, c'est les lois entre les hommes. On pourrait dire, mais attends, la vérité, la semaine dernière, c'était le don de la Torah. Après le don de la Torah, je sais pas, on s'attendait à une épisode plus forte, quoi. La vérité, après, Dieu vient de nous donner la Torah. Allez, vas-y, donne-nous ta Torah maintenant. Tu nous donnes la Torah. Commence à nous parler des mitzvot. Quelle mitzvot on aurait aimé que Dieu nous parle? Il y a des mitzvot plus fortes, comme les fêtes, par exemple, comme, je sais pas, comme, etc. Il y a des mitzvot. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que non. On voit que Kadosh Baruch Hu, il commence par nous parler de quelle mitzvot? Des mishpatim. Kadosh Baruch Hu commence par nous parler des lois. Des lois qui nous ont l'air d'être des lois vraiment terre à terre. Et sur ça, vient le commentaire de Rashi au début de la paracha de cette semaine pour te dire pourquoi il est écrit Ve'ele Amishpatim, et voici les lois. Ça veut dire que le début de la paracha commence en et voici les lois. Pour te dire et, ça veut dire que la paracha de cette semaine est liée intrinsèquement à la paracha de la semaine dernière. Et de la même façon que la fin de la paracha de la semaine dernière, on a appris que Dieu, il nous a donné la Torah, qu'on a construit un hôtel, et que, etc., c'est l'élévation vers Kadosh Baruch Hu. De la même façon, la paracha de cette semaine, Mishpatim, le but de la paracha Mishpatim, c'est pour nous amener à l'élévation vers Kadosh Baruch Hu. Et sur ça, on a le Sefer HaChinuch, qui est le livre, je sais pas comment traduire ça en français, je crois qu'il est traduit ce livre en français.
De l'éducation.
Oui, non, c'est le traduit français, mais c'est pas les éphémérides. Je crois qu'il est traduit en français par Kolbo. C'est un livre qui reprend chaque mitzvah de la Torah, et qui explique la mitzvah. Et surtout, il explique quel est le but de la mitzvah. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette mitzvah? Et quand on lit le commentaire de Sefer HaChinuch sur la paracha de cette semaine, qui est très très long, parce que cette paracha de cette semaine, il y a beaucoup de mitzvot, on voit que sur chaque mitzvah, il explique comment le but de la mitzvah est de nous apprendre à nous travailler sur nous-mêmes. Toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot qu'on a parlé. Je vais vous donner un exemple qui me passe à la tête, et on fera cours sur Bezrat Hashem Shabbat. Une des mitzvot de la paracha de cette semaine, c'est l'interdiction, quand on prête de l'argent, de ne pas prêter intérêt. C'est bon, pas prêter intérêt, pourquoi? Finalement, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je prête de l'argent, j'aurais pu le placer, au lieu de le placer, je le prête à quelqu'un. Pourquoi je vais pas leur prendre des intérêts? Et le Sefer HaChinuch explique. Il dit parce que, à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on travaille sur nous-mêmes. Comment on travaille sur nous-mêmes? On travaille sur nous-mêmes, que bien sûr que ma matière, qu'est-ce qu'elle veut ma matière? Mon corps, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, mais attends, c'est mon argent, je l'ai gagné à la sueur de mon front. S'il le veut, bah, il a quand même payé des intérêts. C'est logique. C'est logique, c'est pas logique. C'est normal. J'aurais pu le placer, j'aurais pu acheter des choses avec, je le place, c'est normal. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit non. Il faut t'apprendre à travailler sur toi-même. Si c'est un non-juif qui veut t'emprunter, dans ce cas-là, tu peux et tu dois lui prêter intérêt. Ça, c'est un autre débat. Parce que c'est normal, c'est ton argent, et c'est normal que quand tu places ton argent, il faut que ça te rapporte des sous. On n'a jamais vu un placement qui ne rapporte rien. Ça n'existe pas. Mais quand c'est un frère juif, c'est pas un placement. C'est un placement avec Dieu, c'est pas un placement avec lui. Quand je prête à un frère juif, je le prête parce que c'est mon frère. Et quand on prête à son frère, il va me les rendre, parce que c'est pas un don, c'est un prêt. Attention, il ne faut pas mélanger les prêts et les dons. Un don, c'est un don, un prêt, c'est un prêt. Il va me les rendre, mais c'est un prêt sans intérêt. Parce que je le prête parce que c'est mon frère, et parce que je ressens que c'est mon frère. Donc, on voit bien dans l'exemple de cette mitzvah, quand je prête de l'argent sans intérêt, je fais un effort sur moi-même pour dire, au niveau de mon corps, je ne suis pas d'accord avec ce que je fais, au niveau de mon âme me dit, tu dois lui prêter sans intérêt. Et quand je fais l'effort de lui prêter, parce que je dois prêter, c'est une mitzvah, c'est une obligation de prêter. Rashi dans la paracha de cette semaine explique que bien que dans la paracha de cette semaine il est écrit « si tu prêterais de l'argent », Rashi dit que dans toute la Torah, il amène Rabbi Ishmael, qui dit que dans toute la Torah, quand il y a écrit « si », ça veut dire « facultatif ». Mais il y a trois exceptions dans la Torah. Et une des trois exceptions, c'est dans la paracha de cette semaine. Quand on te dit « si tu prêterais de l'argent », c'est pas facultatif. Il faut comprendre « si » dans le sens « lorsque tu prêterais de l'argent ». Parce que si j'ai de l'argent à prêter, que de l'argent que je n'utilise pas, et qu'on me demande de l'argent, j'ai une mitzvah et une obligation de prêter. Attends, on m'oblige de prêter de l'argent, en plus sans intérêt. Oui, parce que la Torah veut que je me travaille sur moi-même, pour faire un effort, faire en sorte que l'esprit sera plus fort que la matière, que ma neshama sera plus forte que mon corps. Et donc là, on voit clairement comment le fil conducteur de toutes les mitzvot, c'est ça. Faire en sorte que l'esprit soit plus fort que la matière. Faire en sorte que la neshama soit plus forte que le corps. Maintenant, on comprend pourquoi Hillel l'ancien a dit. Je dis Hillel l'ancien parce qu'il y a eu plusieurs Hillel. Hein. C'est pour ça qu'on dit Hillel l'ancien. Hillel Azaken. Donc voilà pourquoi on dit que Hillel l'ancien a dit que la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même est une mitzvah qui est en vérité toute la Torah. Parce que si j'arrive à aimer mon prochain comme moi-même, ça veut dire que j'ai réussi à faire en sorte que mon esprit est plus fort que ma matière. Si j'ai réussi à faire ça, je vais faire toutes les mitzvot. C'est la base de toutes les mitzvot. C'est ce qu'il dit ici. Maintenant, on va lire dans les mots.
C'est pas l'almanach.
C'est pas le
l'almanach.
La almana.
L'almanach.
L'almanach. Ah, non, c'est pas ça, non.
Livre des commandements.
Je crois que c'est les éphémérides.
C'est pas le livre des commandements.
Le livre des commandements. Je sais pas. Je sais qu'il a un nom qui est pas le même. C'est pas le livre d'éducation. C'est un très bon livre, hein. À mon avis, c'est un livre qui va dans toutes les maisons.
Alors, c'est très bien fait. Hein. Il y a tout.
Il reprend toutes les mitzvot. C'est le livre des commandements, ça s'appelle. C'est possible. C'est classé par paracha.
Oui.
Ah bah, ça doit être ça, alors. C'est Sefer HaChinuch. C'est
en
bon.
Français.
Il est en français. Enfin,
il est en français. C'est un gros livre comme ça.
Chez Kolbo, c'est ça. Il est chez Kolbo. Édité chez Kolbo ou Rabina ou le Rabina.
Non, c'est pas le Rabina. Je crois que c'est Kolbo. Je vais vérifier. Je suis chez moi. Je me rappelle plus.
Vous nous direz, hein, monsieur Baour est notre libraire. Libraire français, anglais, hébreu. Et il dit choisi, hein, et
anglais.
Et anglais. Non, j'ai dit français, anglais, et bientôt arabe. Alors.
Bientôt, oui. On va attendre un petit peu quand même.
Alors, qui. Car.
Il demande 2 millions, pourquoi 2 millions?
Alors, dans les mots. Qui est Sod? On va relire en haut de la page. On va pas beaucoup avancer dans les mots, mais c'est pas grave. Je reprends en haut de la page. Zéou, Shama, il est la Zaken avec ça. On comprend pourquoi il est l'ancien à Dialku, Mitzazo, concernant la compréhension de cette mitzvah, de Havat Israël, Zéou, Kola, Torah, Kula, que cette mitzvah est toute la Torah, Veidar, Pirushaou, et que le reste est du commentaire. Qu'a priori, on comprend pas. Comment c'est possible que le reste est un commentaire? La mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même est une mitzvah a priori qui inclut seulement les mitzvot entre les hommes. Elle est interhumaine. Elle n'inclut pas les mitzvot entre l'homme et Dieu. Comment Hillel a pu dire que la mitzvah d'aimer son prochain est une mitzvah qui inclut toutes les mitzvot? Quelle est la réponse dans les mots? Qui est Sod, Vishoresh, Kol Torah? Car le fondement est la base et la racine de toute la Torah. Hu Leagbia, ou Lehalot, à Nefesh, à la Gouf. La base de toute la Torah, c'est quoi? C'est de faire en sorte que dans la guerre qu'il y a entre le corps et l'âme, qui sait qui va gagner? C'est l'âme, mais c'est pas le corps. Toutes les mitzvot, c'est comme ça. Je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer que mamash, toutes les mitzvot, c'est comme ça. Je vais donner l'exemple du ribit, du prêt à intérêt. Mais il y a plein d'exemples, des mitzvot qu'on fait tous les jours, qu'on ne se rend même pas compte que c'est le but de la mitzvah. Par exemple, je mets les tefilines. Pourquoi je mets les tefilines? À quoi ça sert? Mis à part le fait qu'on m'a éduqué à ma façon de jeûner. Pourquoi je mets les tefilines? D'ailleurs, au passage, très important, je vous le dis ce soir, parce que normalement, si on n'a pas cette kavana, bon, on fait la mitzvah, mais c'est pas terrible. C'est une kavana qui est écrite dans le Shulchan Aruch. C'est la kavana qu'on doit avoir dans les tefilines est écrite dans le Shulchan Aruch, ce qui est très très rare. Le Shulchan Aruch ne donne jamais les kavanot. Parce que c'est une kavana qui est inhérente à la mitzvah des tefilines. Quelle est la kavana que je dois avoir quand je mets les tefilines?
C'est un ordre de Dieu déjà.
Oui, d'accord. Pourquoi je le mets? À quoi je dois penser quand je le mets? Très simple. Je mets les tefilines. D'accord? Je les attache. Donc on attache. D'accord? Je les attache à quel niveau? Au niveau de mon cœur et au niveau de ma tête. Rappelez-vous les deux quartiers généraux que nous avons. On a le quartier général de la tête, donc la réflexion, et les sentiments. Quand je vais attacher dans la tête et je vais attacher dans les cœurs, dans le cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire un effort pour faire en sorte que je vais soumettre mes sentiments et mes réflexions, donc mes pensées, à Kadosh Baruch. Et c'est à ça qu'il faut penser. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, attends, justement, j'explique. D'accord? Maintenant, je vais aller plus loin que ça. Avec quoi j'ai fait les téfilines? Comment on fait les téfilines? On a pris une peau d'un animal. Or, l'âme qui est notre ennemi, elle s'appelle comment? Elle s'appelle l'âme animal. D'accord? Et qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette âme animale? On cherche à prendre cette âme animale et la pousser à faire des mitzvot. C'est-à-dire, quand je prends les tefilines, je prends la peau d'un animal et je dis, tu sais quoi? Non, je vais pas te jeter, je vais te prendre. Tu vas m'aider, viens, tu vas m'aider. Je vais te prendre toi la peau de l'animal et avec toi je vais servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ma mâche en corban. C'est-à-dire, je suis en train de prendre quelque chose qui est matériel, pas plus matérialiste que ça, c'est un animal. Je vais prendre quelque chose qui est matériel et je vais le transformer en kedusha au point que quand je regarde les téfilines, je vois plus la peau d'un animal. Demain matin, quand vous allez regarder vos téfilines, vous n'allez pas les regarder en disant j'ai devant moi la peau d'un animal, bien que c'est la peau d'un animal. Vous allez les regarder comme quelque chose de kadosh. Ça veut dire que l'esprit des téfilines a emporté sur la matière des téfilines. Toutes les mitzvot c'est comme ça. Pareil, le but des téfilines, c'est que mon esprit va emporter sur mon corps. Alors, on a plein d'exemples, d'accord? On a plein d'exemples.
Le lait et la viande, c'est quoi?
Hein? Toutes les mitzvot c'est comme ça.
D'accord, le lait et la viande, c'est quoi?
Et les deux qui sont des chukim. D'accord?
On sait pas.
Là. Pareil. Même quand c'est un roc, le but de la mitzvah, c'est que Dieu m'a demandé de le faire, et même si je le comprends pas, je dois le faire, parce que mon âme me dit, tu dois le faire. Mon corps me dit, j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de le faire.
Mais quand c'est un roc, parce que le roc, a priori, on peut pas le comprendre.
Même si je peux pas, d'abord, on peut comprendre, bon, c'est en général, mais même si je peux pas comprendre le roc, ça n'enlève pas que quand je vais faire la mitzvah, il y aura une guerre entre mon corps et mon âme. Mon corps me dit, il y a pas besoin de la faire. Mon âme me dit, fais-le, qui va gagner? Mon âme. J'espère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque mitzvah, c'est toujours l'âme qui va emporter sur le corps. Exactement comme dans Avat Israël. Dans l'amour du prochain, qu'est-ce qu'on a expliqué? Que si c'est pas mon âme qui emporte sur mon corps, je peux pas faire Avat Israël. Et on a comme ça plein d'exemples. D'accord? Par exemple, je mets une mezouza. Pourquoi je mets la mezouza? Pourquoi je mets la mezouza à la porte? Hein? Pourquoi c'est une alarme?
Une alarme?
Une alarme?
C'est un garde.
Pourquoi je mets la mezouza? Ça veut dire que quand je vais mettre la mezouza, je vais avoir la emouna par ma neshama, parce que mon corps, qu'est-ce qu'il va me dire, écoute, laisse tomber ta mezouza.
Ça marche pas.
Il va dire, laisse tomber. Ça marche pas. Hein? Et ils ont même regardé s'il n'y avait pas des trésors derrière. Les juifs, ils ont dû cacher un truc d'avoir une clé derrière. Donc le corps, il va dire, ça marche pas. Qu'est-ce que va dire la neshama? Il va dire, non, fais-le quand même. C'est-à-dire, dans toutes les mitzvot, il y a un combat entre la neshama et le corps. Et toujours, qui c'est qui va gagner? On espère qui c'est qui va gagner. C'est la neshama. Alors, maintenant, on va comprendre pourquoi Ahavat Israël, l'amour du prochain, est la mitzvah qui est la base pour toute la Torah. Parce que dans toutes les mitzvot, quand je me mets tefilin, par exemple, je peux m'endormir. C'est-à-dire, je peux oublier avec le temps que les tefilin, c'est là pour soumettre le corps, etc. J'ai oublié. Il y a une seule mitzvah, une seule, qui est une mitzvah dans laquelle ça rate pas. Si vraiment t'as pas fait un effort sur toi, de faire en sorte que ton corps, enfin, que l'esprit prend le dessus sur ton corps, tu ne vas pas arriver à faire cette mitzvah. C'est quoi cette mitzvah? Ahavat Israël, l'amour du prochain. Dans cette mitzvah, tu as l'indicateur tout de suite. Si tu es dans un stade de ta vie dans lequel tu sens que ton âme a pris le dessus, ça arrive à aimer n'importe qui. Si tu es un jour dans lequel tu n'as pas trop le mood, hein, comme les Américains, tu n'es pas dans le mood, tu n'es pas dedans, d'accord? Tu n'es pas d'humeur. et que bon, t'es plutôt dans ton corps, pas dans ton âme, ben là, dans ce cas-là, t'arrives pas à aimer un frère. Les tefilines, tu les mettras. Les tefilines, c'est pas un bon indicateur. Le Shabbat, tu le feras. La cacheroute, tu le feras. Parce que ça, c'est sûr qu'on fait par routine. Mais aimer quelqu'un, tu peux pas le faire par routine. Si tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. Aimer quelqu'un, surtout, vous savez, quand vous êtes pas d'humeur, quand t'as en face de toi qui te prend la tête, t'as encore moins envie de le regarder. Tu dis, oh là là, on vient demain, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, aujourd'hui, pas le temps pour toi, tu viens demain. Et c'est là qu'il y a un indicateur. Que si j'ai réussi à travailler sur moi, à faire en sorte que mon corps est inférieur à mon esprit, dans ce cas-là, je peux aimer mon prochain. Donc voilà pourquoi Vat Israël est une mitzvah principale, parce que c'est une mitzvah qui est indicateur pour savoir est-ce que j'ai réussi à faire en sorte que mon corps est inférieur par rapport à ma neshama. D'accord? Je vais raconter une histoire pour illustrer ça. On raconte que le rabbi a raconté une histoire au nom du rabbi précédent. Le rabbi précédent qui est le père donc le père de la rabbanit Chaya Mouchka dont on a célébré la lula aujourd'hui. Et le rabbi précédent a raconté l'histoire suivante. Il a raconté qu'il y avait une fois un des Gdolé Israël, un des grands tzadikim de Israël, que lorsque son fils était malade, il a beaucoup pleuré. Il a pleuré très fort parce que son fils était malade. Il a pleuré pour demander à Kadosh Baruch Hu de guérir son fils. Et ensuite, Baruch Hashem, son fils a guéri. Et ensuite, il a fait tout un cours à ses chassidim pour leur expliquer, pour leur dire, ça m'a beaucoup travaillé le fait que j'ai pleuré sur mon fils. Pourquoi? C'est normal de pleurer sur son fils. Il dit non, ce qui m'a travaillé, c'est pas que j'ai pleuré sur mon fils. C'est comment ça se fait que j'ai pleuré sur mon fils plus que ce que je pleure lorsque j'apprends une mauvaise nouvelle ou bien quand le fils de quelqu'un d'autre est malade. Vous allez me dire, mais attends, c'est normal. Non, il dit, je m'en suis voulu pour ça. Le rabbi précédent, il raconte une histoire au nom d'un Gdolé Israël qui a dit qu'il s'en est voulu sur le fait qu'il n'avait pas une Avat Israël parfaite, parce que si j'avais une Avat Israël parfaite, j'aurais dû pleurer pour le malheur d'un autre juif comme je pleure pour mon fils. Et sur ça aussi, puisque j'ai parlé du rabbi précédent, le rabbi précédent a raconté lui-même aussi que dans Sefer Ringen, vous savez qu'il est passé par la Shoah. Et quand il est arrivé aux États-Unis, il accompagnait la génération qui était post-Shoah, qui était une génération très 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 difficile. Des gens qui ont beaucoup souffert. Et vous savez, les gens, ils avaient besoin de lâcher leur paquet. Qui va pour lâcher son paquet? On va chez un tzaddik. Donc à chaque fois, les gens venaient voir le rabbi précédent, ils venaient voir les rabbanim, dont le rabbi précédent, et ils déballaient. Et c'est très très dur parce que devant les gens, tu essayes de pas pleurer, mais après, c'est très très difficile. Et le rabbi précédent, il a raconté comme ça. Il a dit que une fois, on lui est venu lui annoncer qu'une personne qui croyait qu'il était vivant, qui était un de ses chassidim, on lui a annoncé qu'il était mort. Et il a beaucoup pleuré après qu'il a entendu ça. Et dans le Fabringen qu'il a fait après, il a beaucoup parlé sur ça, il a dit, comment ça se fait que j'ai plus pleuré sur ce chassid qui est Niftar que sur les autres personnes? Il pleurait sur les autres, mais il a plus pleuré sur ce chassid que sur les autres. C'est-à-dire que c'est un niveau d'Avat Israël qui est très très très, très fort. Un niveau d'Avat Israël qui demande qu'on ne fait aucune différence entre les juifs. Aucune différence. Rappelez-vous aussi sur la semaine dernière que on aime chaque juif comme son frère, comme son fils. Aucune différence. C'est un travail extraordinaire. Hein.
Mais fils, c'est pas le voisin.
Il y a forcément un côté où il y a une relation avec une personne, donc quelque chose.
Ce niveau, c'est seulement par rapport au corps.
Donc il y a toujours des questions.
C'est que par rapport au corps. Si on analysait l'autre par rapport à son âme, mon fils comme l'autre, c'est les mêmes. Bien sûr, on n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est pour te donner un exemple. Pour montrer jusqu'à où ça va. Ah oui, c'est pour montrer le top. Ça veut dire le niveau très très haut, c'est quoi? C'est qu'il est arrivé à un niveau tellement fort que il regarde son fils comme un autre. Pourquoi? Parce qu'il regarde l'âme de son fils et l'âme de son fils est comme un autre. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là. Mais juste pour montrer qu'est-ce que ça veut dire quand on arrive au top de ce niveau-là.
Les juifs, on a cette particularité quand même d'être touchés par n'importe quel juif dans le monde.
Oui, pas autant. C'est vrai? On a ça.
Par rapport aux autres.
Dès qu'il y a un événement qui se passe, on est là.
Ce matin, j'ai raconté, on a parlé ce matin dans le cours. On a raconté une histoire avec la rabbanit Chaya Mouchka. Parce qu'on a parlé de Avat Israël, l'amour du prochain. Lorsque la rabbanit Chaya Mouchka et son époux, le rabbi, étaient à Paris, parce qu'ils étaient à Paris, hein, ils étaient à Paris entre 39 et 41, jusqu'à fin 41, début 42. Donc ils étaient à Paris, donc pendant la guerre. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient. Et les réfugiés, ils cherchaient à aller dans les hôtels. Ils pouvaient pas entrer dans les hôtels, puisque dans les hôtels, on avait peur que les gens allaient squatter. Alors qu'est-ce qu'il fallait? Pour rentrer, il fallait donner un billet. Il fallait montrer que tu avais un billet de, je crois que c'était 100 dollars, d'accord ? Il fallait montrer que tu avais ou 100 francs, enfin, en tout cas, une somme importante, hein ? C'est un 100, un billet de 100, mais c'est une somme importante. Il fallait montrer que tu avais ce billet, comme pour montrer que tu as, que t'es solvable, quoi, que t'as de l'argent.
De quoi payer.
D'accord ? T'as de quoi payer. Et l'histoire raconte que la rabbanite, avec son mari, d'accord ? Et avec beaucoup de personnes comme ça, des gens, ils tournaient dans les rues de Paris, alors qu'ils auraient pu se sauver. Ils tournaient dans les rues de Paris, ils cherchaient des juifs réfugiés. Des juifs qu'ils connaissaient même pas. Des juifs qui étaient peut-être religieux ou pas religieux, ou chassidim ou pas chassidim. Ça change rien. Il cherchait des gens comme ça, et il leur donnait le billet, il lui disait, prenez le billet, c'était une grosse somme pour l'époque, allez à l'hôtel et vous me ramenez le billet. Maintenant, il aurait pu ne pas revenir, le bonhomme. Sans problème. Avat Israël, l'amour du prochain. C'est-à-dire un amour du prochain inconditionnel pour n'importe quelle personne, pour tout le monde. Ça, c'est un niveau qui normalement se réveille chez nous, ou seulement dans des moments très très forts. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzchak, qui raconte qu'une fois, lorsqu'il était à Varsovie, en 41, le Rabbi Yosef Yitzchak, qui était à Varsovie jusqu'à 41, il a raconté qu'une fois, il y a eu un bombardement. Un bombardement, et le bombardement a attaqué, il y a eu un obus qui était assez important, qui est tombé dans un immeuble juste à côté de l'immeuble dans lequel il se trouvait. Il était dans un abri. Et il raconte qu'à ce moment-là, il était avec plusieurs dizaines, ou, enfin, beaucoup de juifs, dans une grande pièce, un abri. Il y a eu un obus qui est tombé dans la pièce. Enfin, dans l'immeuble à côté, ils étaient persuadés que c'est fini, ils allaient mourir sous les décombres. Et le rabbi précédent raconte dans ses mémoires, parce qu'il a écrit des mémoires, il raconte, il dit à ce moment-là, il y a eu un Shema Israël qui est sorti à l'unisson de tous ceux qui étaient dans cette pièce. Maintenant, il raconte, il dit, dans cette pièce, quelques instants avant, quand on parlait, il y avait des religieux, il y avait des pas religieux, il y avait des athées, il y avait des laïcs et tout ce que tu veux. Mais il a dit, lorsque le Shema Israël est sorti, et il est sorti à l'unisson. Et le rabbi précédent a dit une phrase très forte. Il a dit, bon, bien sûr qu'on aurait préféré ne pas être passé par cette épreuve. Mais il a dit, si Akadosh Baruch Hu me fait passer par cette épreuve juste pour que je vois ce chemin Israël, c'est déjà quelque chose de très fort. C'est un chemin Israël énorme. Seulement, le problème qu'on a, c'est que c'est seulement dans des moments forts comme ça qu'on arrive à faire en sorte que l'âme est plus forte que le corps. Mais en général, c'est pas comme ça. En général, c'est pas malheureusement. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. D'accord? Moi, c'est moi, et toi, tais-toi. C'est ça que t'apprends le Tania. Le Tania t'apprend que pour avoir une vraie Avat Israël, un vrai amour du prochain envers un autre juif, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un effort de l'analyser par rapport à son échama, par rapport à son âme. Alors, il continue la Moura Zaken. Il dit, Lehamshir Vegam, et aussi, Lehamshir Orensov Bikineset Israël, que Moshe Idber Lekaman. Bon, ça on verra plus tard. Lemeheve Echad Beechad Davka. Là, il rajoute un point très important. Ah, monsieur Blessen, il a l'habitude de me reprendre toujours sur ça quand on fait le vendredi soir. Hein, ça traite les tatas. Alors, je vais vous dire, en vérité, c'est un texte du soir. Tu peux me passer un ciseau, s'il te plaît, derrière, qui est la TCM?
Ouais, je vais enfin nous traduire ce que ça veut dire.
Merci. Alors en fait, ça, on tient ça du Baal Shem Tov. Il y a beaucoup de synagogues, communautés ashkenazes qui le font. C'est que le vendredi soir, après le Lecha Dodi, Emil Marshall, Yom HaShabbat, etc., Hashem Malach, Shalom Rechemim, chez les Sephardim, on passe directement à Baruch Hu. Mais chez les Chassidim et chez beaucoup aussi d'Ashkenazim, on a pris l'habitude d'intercaler un texte du Zohar. C'est un texte du Zohar qui parle, qui raconte ce qui se passe lorsqu'arrive l'entrée du Shabbat. Il raconte comment ça se passe l'entrée du Shabbat. Le secret du Shabbat. Ça, c'est le titre du Zohar. Le Raza des Shabbat. Le secret du Shabbat. Bon, alors, le Zohar a toute une introduction. C'est quelques phrases, hein. Donc, le Zohar raconte, il dit qu'au moment où nous, on se rassemble à la synagogue pour accueillir le Shabbat, au même moment, tous les malachim se rassemblent pour le secret de Echad, hein, pour à l'unisson, donc pour parler à Kadosh Baruch Hu. Et là, le Zohar, il dit comme ça, il dit, c'est quoi le secret du Shabbat? Il dit, quand on fait la prière du vendredi soir, à ce moment-là, le trône céleste, la chaise, donc le trône céleste, va s'élever dans le secret de Echad. Écoutez bien ce que dit le Zohar. Le Zohar dit qu'à ce moment-là, tous les dinim, tous les dinim qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire toutes les la rigueur et les rasvechalom et les décrets qu'il pouvait y avoir, à Kadosh Baruch Hu, il envoie une lumière tellement forte que tous les dinim s'en vont. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les réchaïm ne sont pas au Gehinnom, et le Gehinnom ne fonctionne pas pendant le Shabbat. Parce que la lumière qui rentre avec le Shabbat, le Echad qui rentre dans le Shabbat est tellement fort, que c'est une lumière qui irradie partout et que grâce à cette lumière, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que tous les dinim, tous les décrets s'en vont. Maintenant, qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar dit que la même façon que en haut, les Aïla, en haut, il y a une lumière qui est tellement forte, qui irradie et qui fait en sorte que le mal n'existe plus, même le guilm n'existe plus, et qu'il n'y a rien d'autre qui peut exister, coexister dans le monde, à part la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, le Zohar, il dit, veit atrat le tata be'ama kadisha. De la même façon, cette lumière, elle peut descendre vers nous aussi, les tata, ça veut dire en bas. Pas tata, hein. Les tata, ça veut dire en bas. C'est-à-dire, de la même façon qu'en haut, cette lumière irradie tout le monde, gan eden, gaylam, tout le monde, de la même façon, cette lumière peut nous irradier à nous aussi en bas. Et si on fait un effort, la lumière est là, mais moi, il faut la capter. Si je veux pas la capter, elle viendra pas. Ça veut dire que si je fais l'effort de dire, je rentre dans le Shabbat, je mets tous mes problèmes de côté, etc., eh ben, cette lumière peut m'irradier, peut enlever mon gaynam kaviachol, c'est-à-dire mes problèmes, autant qu'elle peut enlever le gaynam d'en haut. Ça, c'est un texte du Zohar. D'accord? C'est un texte magnifique. C'est un texte magnifique. C'est un... Si vous voulez, pour moi, c'est un texte très important parce que, jusqu'au Lecha Dodi, on est dans l'introduction. Lecha Dodi, c'est on va accueillir la reine Shabbat. On accueille, c'est de l'accueil. Et là, le Baruch, c'est là qu'on rentre dans la reine du Shabbat. C'est comme, vous savez, quand vous voulez accueillir un invité. Alors, au début, on fait les banderoles, les bienvenues, etc., mais il n'est pas encore rentré. Baruch, c'est là qu'il rentre.
C'est l'apéritif.
D'ailleurs, c'est pour ça que les prélats de Morazaken, pour ceux qui font rentrer Shabbat avant l'heure, normalement, le Shabbat, il rentre avec Baruch, parce que c'est là qu'on fait rentrer Shabbat. Le Lecha Dodi, etc., c'est pas encore l'entrée de Shabbat. Le Lecha Dodi, c'est, on annonce le Shabbat. Même le Mizmorcher, le Yama Shabbat, on annonce qu'on va faire rentrer Shabbat. Quand on fait Baruch, c'est là que le Shabbat est rentré. Voilà pourquoi le Baal Shem Tov a intercalé ça, juste avant le Baruch. Comme c'est là qu'on va faire rentrer le Shabbat, il dit, attendez, tu veux faire rentrer le Shabbat? Je vais te montrer ce qui va quand tu fais passer le Shabbat. Quand tu fais rentrer le Shabbat, tu peux irradier ta vie. Au point que tous les problèmes s'en vont. D'ailleurs, c'est Nelachal Shouran Aour, qui dit que lorsque le Shabbat rentre, on doit considérer comme si tout le travail qu'on a fait est déjà terminé. Et des fois, ça arrive avant Shabbat, t'as une galère, etc. Shabbat est rentré. Instinctivement, tu vas penser à ça pendant Shabbat. Tu vas dire, attends, mais comment je vais faire après Shabbat, etc. La Gemara te dit, et le Shouran Aour te dit, lorsque tu arrives dans Shabbat, tu dois considérer comme si tout est terminé, il n'y a plus de problème. Comme si que, c'est fini, il n'y a plus de problème, t'es arrivé, voilà, on a tout réglé, toutes les factures sont réglées, tout est fait, il n'y a rien. Voilà, je suis là, je suis en vacances. Mais c'est pas les vacances, il y a quelque chose qui m'attend après, il n'y a rien qui m'attend après. Ke'ilu kol melartora asuya. Comme il est écrit, Asher bara Elohim la asot. D'accord? Ça veut dire que le verset il dit comme ça, Dieu a créé le monde la asot. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit, il est écrit aussi, voilà, c'est ça le pasouk. Il dit, pendant 6 jours, tu travailleras, et tu feras tout ton travail. Tout ton travail, quoi. Et tout. Et si j'ai pas terminé, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai pas tout terminé? Tu dis la Gemara, hein? Non. Mais c'est pas, voilà. Quand tu rentres dans Shabbat, tu considères comme si tout terminé. Ça nous arrive à tous. Des petites galères, des petits trucs comme ça. Tu rentres dans Shabbat, y'a rien. C'est fini. J'ai tout oublié. Hein? Bien sûr, c'est pas évident. Surtout quand il y a des blancs, etc., tu t'en rappelles. Pour revenir au Tania maintenant. Le Tania, il dit comme ça. Le Tania, il dit que le Echad, ce Echad peut marcher, le Echad du Shabbat, le secret du Echad peut marcher seulement si les Juifs sont unis entre eux. Si les Juifs ne sont pas unis entre eux, le Echad ne peut pas marcher. Ça veut dire que, comment Akadosh Baruch Hu peut faire en sorte qu'il y a une lumière tellement forte, une lumière Echad, qui va irradier sur le monde entier, sur le Gan Eden, le Gehinom, même en bas? C'est à condition qu'on soit Echad, qu'on soit uni. Si on n'est pas Echad, d'accord? Ça marche pas. C'est pour ça, là-bas, dans ce texte, il dit, les Me'eve Echad Be'Echad. Que pour avoir cette lumière, ça c'est dans l'introduction ici. Gav, hein, voilà, c'est ça, voilà. Les Me'eve Echad Be'Echad. Pour arriver au Echad d'Akadosh Baruch Hu, au 1, à l'unité, il faut avoir Echad entre nous. Quand on a le Echad des hommes appelle le Echad d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis ça maintenant? Pour montrer comment la mitzvah de Ahavat Israël est une mitzvah qui est essentielle, toute la Torah, pour plusieurs raisons. D'abord, on a expliqué parce que c'est une mitzvah que pour l'accomplir réellement, je suis obligé de faire en sorte que mon esprit sera plus fort que mon corps. Et ça, c'est la base de toutes les mitzvot. Voilà pourquoi l'ancien a dit que cette mitzvah est la base de toutes les mitzvot. Parce que si j'ai réussi à faire en sorte que l'esprit sera plus fort que le corps, ben j'ai gagné toutes les mitzvot. Et donc, c'est pour ça qu'il a raison. Toute la Torah. Mais c'est pas que ça. C'est quoi le second but des mitzvot? C'est le faire en sorte qu'on s'attache avec Akadosh Baruch Hu. Mais même si on fait toutes les mitzvot au monde, si on n'est pas unis entre nous, on n'a pas le Echad d'Akadosh Baruch Hu. Si on n'a pas le Echad d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il éclaire pas. Voilà pourquoi l'ancien a dit que la mitzvah de Ahavat Israël, Zehu Kol HaTorah Kula, c'est toute la Torah. Puisque le but des mitzvot, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le Ham Israël s'attache à Kadosh Baruch Hu, avec Kadosh Baruch Hu. Mais pour ce faire, le Me'eve Echad Be'Echad. Il faut le Echad, D'accord? Echad, c'est la valeur numérique 13, on est au 13e. Echad, B Echad. Echad avec Echad. Donc voilà, on comprend maintenant pourquoi la mitzvah de Havat Israël est une mitzvah qui est tellement essentielle. C'est ça le but du cours d'aujourd'hui. Le but du cours d'aujourd'hui, c'est d'expliquer pourquoi la mitzvah de Havat Israël est une mitzvah qui est essentielle parmi toutes les mitzvot. Parce qu'elle m'apprend à faire en sorte, et c'est un indicateur pour savoir est-ce que réellement mon esprit est plus fort que mon corps, et parce que aussi c'est une mitzvah qui permet à Israël de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, et quand Israël est uni, automatiquement Akadosh Baruch Hu, il envoie la lumière du Echad, la lumière du Echad qui irradie sur le monde entier en tout.
Alors, je comprends pas, c'est que ne pas faire à l'autre ce que je voudrais pas qu'on me fasse,
oui.
C'est pas de l'amour, c'est de la logique. C'est pas de l'amour, ça.
Non, j'ai pas besoin d'action.
C'est la logique, peut-être.
C'est du bon sens.
Te dit pas,
tu oui. Peux... Tu veux pas qu'on te mette un coup de poing, donne-le pas à l'autre. C'est du bon sens, c'est pas de l'amour. Je le fais, je veux pas le faire par amour, c'est juste par bon sens.
Bah, j'ai compris, mais en quoi, la question qu'on se pose, c'est en quoi cette mitzvah est la base de toutes les mitzvahs?
Non, mais Hillel ne lui a pas dit que c'était la mitzvah d'amour qui était la base de toutes les mitzvahs. Tu l'as dit.
C'est le bon que sens. Que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, te fais pas aux autres.
Pas de l'amour.
Si.
Tu peux rester dans l'inaction. Non,
c'est... Bien sûr, on passe dans l'inaction. C'est la même chose. Ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, je ne le fais pas aux autres.
Mais ce n'est pas, vers Aftal et Réa Kamocha, ça.
Oui.
Hillel en a fait sa définition, mais on peut dire que l'amour, c'est le même amour que j'ai envers Dieu, je dois avoir envers, envers mon prochain.
Mais c'est très bien si j'arrive à ce niveau-là.
Oui, mais c'est parce qu'Hillel lui a dit à ce guerre.
Alors, ce que je dis, c'est parce qu'en fait, le marché, sur ça, il explique que pourquoi il a dit dans une forme de négation. Il y a une forme de négation pour lui dire que la première étape quand on travaille sur soi, c'est d'abord de faire en sorte que je ne fais pas de bêtises à l'autre, c'est-à-dire j'embête pas l'autre. Et après, progressivement, je vais faire en sorte que non seulement je l'embête pas, mais en plus je le rends service. Et le marché illustre ça avec une question. Il dit, alachiquement, si par exemple on est dans le désert, et qu'il n'y a qu'un verre d'eau, et qu'on ne peut pas prendre les deux, d'accord ? Qui c'est qui passe en premier ? C'est moi. Parce que je suis prioritaire. Ça veut dire que l'inaction, là, l'autre, il doit être comme moi, mais dans l'action, je suis prioritaire par rapport à l'autre. Mais là, apparemment, ce qu'on attend, c'est d'un niveau encore plus fort que ça.
Où est Avat Israël là-dedans?
Non.
Ah oui, il y a une raison.
Avat Israël, je comprends votre question, mais Avat Israël, c'est dans le sens déjà
que
par rapport à mon âme, je dois considérer l'âme de l'autre comme mon âme. Maintenant, si elle change entre les deux âmes, la mienne est plus importante.
Ah, donc je laisse l'âme de l'autre mourir.
Non, c'est pas ça. Et si, enfin, c'est un cas qui est théorique. Hein.
Il aurait été
dans le désert.
Non, mais il aurait été plus judicieux de dire je partage.
Monsieur Benita, vous êtes dans un avion, d'accord? Vous êtes dans un avion. L'avion est en panne d'essence. Il y a un seul parachute et le parachute prend une seule personne. Et si on prend deux, il va se casser. Donc il y a un seul qui peut sauter. D'accord. Et le parachute est dans votre main. Qu'est-ce que vous faites?
Là, dans ce... Non. Dans ce type d'exemple, il n'y a pas d'autre possibilité que ça soit.
Ah, il saute et l'autre il fait chemin Israël.
Non. Je suis désolé. Tandis que le verre d'eau, il y a la possibilité de le partager.
Non, parle qu'il n'y a pas assez. Je parle qu'il n'y a pas assez. Ça veut dire qu'on calcule par rapport à la distance qu'il faut pour atteindre le prochain point d'eau. On sait qu'il n'y aura pas assez. On sait qu'il n'y a pas assez. C'est un cas théorique, Monsieur Benita.
Oui, non, j'ai compris, mais bon.
Prenez le cas du parachute, si vous préférez.
Dans cet Avat Israël, on me demande de.
Mais suppose que tu dois faire le choix de sauver quelqu'un.
Oui.
Alors là,
j'ai pas le droit de.
Il y a des niveaux.
Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit pour sauver quelqu'un de me tuer.
Non, mais de choisir. Par exemple, on va dire, tu ne peux prendre qu'une seule personne. Il y a deux personnes qui sont en train de se noyer.
Oui.
Ça commence à être chaud.
Tu dois sauver en premier.
On sauve
c'est chaud, hein.
C'est le coup.
Ah, il y a des lois. Si c'est ton père,
tu pries pour pas que ça t'arrive.
Si c'est ton rave et ton père.
Oui, d'accord, non, mais les femmes et les enfants d'abord.
Tu pries pour pas que.
Il y a des règles.
Tu sais que dans les hôpitaux, il y a des règles.
Bien sûr.
Quand on n'a pas le choix, il y a des règles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des règles par rapport à. Par un enfant, tout de suite, il arrive, il est prioritaire. Enfin, du préserve, quoi. Moi, c'est du préserve.
Si on doit sauver le bébé ou la maman, on sauve la maman.
C'est.
Quand une maman est enceinte, si on doit sauver le bébé ou la maman.
Ça c'est un cas particulier, ça. C'est pourquoi? Parce que alachiquement, le bébé, non, c'est pas pour ça, pas du tout. Non, pas du tout. C'est...
Pourquoi
t'as
dit?
Par le nom, mais
non, pas du tout. Et l'enfant aussi peut donner notre enfant. Non, parce que Rambam dit que dans ce cas-là, l'enfant, il est indigne de Rodef. Le Rodef, c'est un cas alachique, ça veut dire que l'enfant est considéré comme un tueur. Il est indigne que quand un tueur vient tuer une autre personne, il faut tuer le tueur. Non, mais c'est la seule raison. Parce que sinon, on n'aura aucun droit. On doit les laisser débrouiller, le premier qui.
Une raison aussi, c'est que tant qu'il n'a pas.
Non, il est Rodef, même médicament, il dit Rodef.
Hein? S'il est viable ou pas, s'il y a un Safek.
Mais d'accord, mais il est. Non, il est
Rodef. Quelque chose qui est Vadaï Chai est un enfant qui n'a pas encore 30 jours.
Rama me dit, parce qu'il est Rodef. Il dit Rodef, il dit clairement. Il dit c'est un assassin. L'enfant, c'est un assassin à ce moment-là. Bon, c'est.
C'est grave.
Bah, c'est la vérité. Bon, revenons à notre Tania. Pour expliquer l'importance de l'unité, Rabotaï. Pourquoi c'est une mitzvah qui est tellement centrale, pas que entre les hommes, même envers Dieu. D'abord, parce que cette mitzvah me prouve, et un indicateur pour me prouver que mon esprit dépasse mon âme. Mon esprit, pardon, dépasse mon corps. Mais deuxièmement, parce que s'il n'y a pas l'unité entre les hommes, Dieu ne peut pas éclairer. Ça veut dire que quand on a des gens qui font plein de mitzvot, qui sont très religieux, mais que dans les relations interhumaines, c'est une catastrophe, ils sont à côté de la plaque. Ils sont à côté de la plaque. La rabbinite, je l'ai dit ce matin, la rabbinite a raconté que quand elle était à Paris, pendant la guerre, elle a vu des tzadikim sans tefilin. De quoi elle parlait? Elle parlait de juifs qui étaient là à Paris, qui s'occupaient justement avec ses billets, etc., donc des bureaux, les bureaux du joint, etc., qui étaient là pour sauver des gens. C'est des gens qui étaient pas religieux. Je sais même pas si ils étaient pour. Mais ils avaient une telle abnégation, un tel don de soi, que elle a dit, pour moi, c'était des tzadikim sans tefilin.
C'est la situation aussi.
Ah, j'ai compris. Non, c'est pour vous dire. Ça veut dire que je dis pas que c'est bien ce qu'ils ont fait. Elle a dit j'ai vu des tzadikim sans tefilin. Ce que je veux dire par là, non mais c'est des gens qui sont mouillés. Ce que je veux dire par là.
Mais il y avait aussi la situation qui le poussait. C'est-à-dire que si on était en temps de paix, ces gens-là n'auraient pas fait.
Non parce que excuse-moi. Tu sais dans une situation comme ça, c'est la nature profonde qui ressort. Et on a vu beaucoup de gens qui sont sauvés. Tu sais il y a beaucoup de gens qui ont oublié même leurs femmes et leurs enfants. Ils ont laissé tout le monde en plein, ils sont sauvés. On n'a aucune idée comment on aurait réagi à leur place. Oui. Aucune idée. Aucune. Il faut le savoir.
On ne sait pas aussi comment ces gens-là auraient été en temps de paix.
Ça, c'est clair. Non, mais ils n'étaient pas religieux. C'est clair.
Non. Mais c'est oui. Même cet amour qu'ils avaient, entre guillemets, qui s'est déclaré.
En tout cas, là, elle a dit, j'ai vu des tzadikim. Des tzadikim sont tefilines. Pour montrer quoi? Pour montrer que c'est des gens qui avaient une Ahavat Israël. un amour du prochain. Une personne qui est très, et malheureusement, on en voit souvent ça. Des gens qui sont très religieux, mais qui n'ont aucun amour d'un prochain. Ils écrasent tout le monde, ils respectent pas les autres. C'est à côté de la plaque, ça. C'est à côté de la plaque. Pourquoi à côté de la plaque? Parce que, bien sûr qu'il aura un Gan Eden pour ça, etc. Mais le problème, c'est que, il y a un blocage en haut. Tant qu'on n'est pas Echad entre nous, tant qu'on n'est pas unis entre nous, Akadosh Baruch Hu, il peut pas envoyer son Echad. Et si Akadosh Baruch Hu n'envoie pas son Echad, ça sert à rien, on perd notre temps.
Alors, quelqu'un qui est échoué dans une désert, il est...
Il est quoi?
Il est mort.
Pourquoi?
Il ne peut pas faire Echad avec personne, il ne peut faire Echad qu'avec les murs.
Ah, vous avez des cas?
J'ai eu une réponse à une fois avec quelqu'un qui a posé une question à un rave, il a dit comment on fait quand on est au pôle Nord pour le Shabbat, etc. Le rave lui a répondu, il a dit qu'est-ce qu'un juif il a à faire au pôle Nord?
Qu'est-ce que tu fais là-bas?
C'est le début de la réponse.
Mais il y a pourtant un Betrabad
pas au pôle Nord,
Alaska.
Et
c'est quand même très proche.
Oui, oui. Hein. Non, mais c'est pas. Il y a quand même la nuit. Il y a la nuit. Alors, attendez, bien sûr. Vélo que chez Espirou. Donc là, encore une fois, c'est pour expliquer. On va terminer avec ça.
En Alaska, qu'est-ce qu'il fait le pôle là-bas?
Eh ben, il y a du monde.
Il y a des juifs.
Bien sûr.
Il y a des juifs. Oui.
C'est pour expliquer Rabotaï. C'est pour expliquer pourquoi, comment ça se fait que Ahavat Israël est une mitzvah centrale. On va terminer avec ça. Ahavat Israël est une mitzvah centrale parce que sans cette mitzvah, même si on a d'autres mitzvot, même si on met les tefilines, on fait la kashrout, on fait Shabbat, on étudie la Torah toute la journée, si on n'a pas Ahavat Israël, velo kashiyesh pirud, chas v'shalom et neshamot. Lorsque les neshamot sont chas v'shalom séparés, Dieu peut pas résider en nous. On n'a pas le Echad be-Echad. On n'a pas le Echad entre les hommes qui va invoquer le Echad à Kadosh Baruch Hu. Michou, pourquoi? Tout ça parce que des coups de lo sharia be'atar pagim. À Kadosh Baruch Hu ne peut pas résider dans un endroit défectueux. Un endroit qui n'est pas uni est un endroit qui est défectueux. C'est comme si tu as une table et un endroit tu as un trou. Tu lui dis, ça se touche pas. D'abord tu répares le trou, moi je vais lisse. Après je viens. Le Zohar dit que Kadosh Baruch Hu ne veut pas résider dans un endroit qui est défectueux. Ou comme Moshe Omri, mais comme on dit dans le Sim Shalom, voilà une kavana que vous aurez dans quelques minutes dans votre Amida. Barenu avinu kulanu keichad. Béninu notre Père tous ensemble. Alors comment en général on traduit cette beracha, la dernière beracha, on dit Barenu avinu kulanu keichad, béninu tous ensemble. Mais la Nourazaken met une virgule, il dit non. Barenu avinu. Quand est-ce que notre Père va nous bénir? Quand est-ce que Dieu va nous bénir? Kulanu keichad. Lorsqu'on sera tous ensemble. Quand on est tous echad. Quand est-ce, Bachenu avinu, quand Kulanu Keichad? Dans quel cas notre Père veut nous bénir? Quand on va être Kulanu Keichad tous ensemble. Donc avec ça, on comprend pourquoi la mitzvah de Ahavat Israël est une mitzvah qui est centrale. Puisque, sans cette mitzvah, si j'aime pas mon prochain, non seulement que dans les mitzvot interhumaines, il y a un problème. Même envers un Kadosh Baruch Hu, il y a un problème. Parce que d'abord, mon esprit ne sera pas plus fort que ma matière. Et en plus, parce que sans ça, sans les aides de Avat Israël, si on n'est pas unis entre nous, Akadosh Baruch Hu met son veto et Akadosh Baruch Hu n'éclaire pas le Bnei Israël. C'est la raison pour laquelle le Beth Amikdash était détruit. Pourquoi le Beth Amikdash était détruit? Parce qu'on n'avait pas Avat Israël. La haine gratuite, on connaît pas Avat Israël. Il faut avoir l'amour gratuit, parce que Bezrat Hashem avec l'amour gratuit, Kulan ou Kehad, quand on sera tous ensemble, là ça va mieux. Je vais terminer par un exemple après les questions. Il y a un exemple où on voit clairement cette chose-là. On voit clairement que qu'est-ce qui amène la Beracha, c'est quand on est tous unis. L'exemple, c'est le corps humain. Comment un corps humain fonctionne? Le corps humain fonctionne bien lorsque tous les membres fonctionnent tous ensemble, à l'unisson. C'est pas qu'un moment il va dire, ah, attends, mais j'ai le sang, mais je le garde pour moi. Ah, non, je te donne pas à toi. Non, je le garde pour moi, je le donne pas à toi. Ça peut pas marcher. Quand t'as un homme qui dit, attends, j'ai pris pour moi, mais je le donne. Et après, ça va repartir, ça va venir vers moi. Là, ça va marcher. Si Chas v'Shalom, il y a un membre qui dit, je bloque, je prends pas. C'est pas que ce membre qui est malade, c'est pas que le membre d'après qui est malade. C'est tous les membres qui sont malades, y compris ce membre qui refuse de donner à notre. De la même manière. Quand on refuse de donner à notre juif, c'est pas seulement l'autre juif qui est malade. C'est pas seulement le juif qui veut pas donner qui est malade. C'est tout le peuple d'Israël qui est malade. Voilà pourquoi c'est très important de faire Ahavat Israël, l'amour du prochain. Et que, Ahavat Israël, Navi et Agoel. C'est un dicton que le rabbi disait souvent, que par l'amour du prochain, c'est comme ça qu'on amènera Mashiach. Sans l'amour du prochain, Mashiach peut pas venir. C'est pour ça que c'est une des 10 campagnes que le rabbi a lancé, l'importance de faire un effort à Ahavat Israël, l'amour du prochain. Alors bon, on aura Bezrat Hashem la suite dans ce cours, parce qu'on a encore beaucoup, on n'a pas beaucoup avancé dans les mots. On a encore beaucoup à expliquer. On expliquera juste un petit point que je vais rajouter. On n'est pas en train de dire qu'on est tous les mêmes. Il y a des religions dans lesquelles on dit on est tous les mêmes. Tous les mêmes, il y a le Seigneur qui vient, et hop, on est tous les mêmes. C'est pas du tout l'approche de la Torah. L'approche de la Torah, tu dis non. Il y a des gens qui sont en haut, des gens qui sont en bas, des gens qui sont à la tête, des gens qui sont aux pieds. C'est pas un problème, ça. Mais, on doit savoir qu'on est tous unis. Comme dans un corps. Il y a les têtes, il y a les pieds, il y a les mains, mais on est tous unis. C'est-à-dire, chacun sait apprécier la fonction de l'autre. C'est pas, il dit, non, lui, laisse tomber, il est pas important. Ah, laisse tomber celui-là, laisse tomber. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme si la tête, elle va dire, ah, le pied, laisse tomber. Ah, c'est le pied, laisse tomber. Ça, il peut pas marcher. Il n'y a pas un membre dans le corps qui est en trop. De la même manière, il n'y a pas un juif qui est de trop. Et des fois, des gens, tu entends, tu dis, ce juif, il est de trop. C'est vrai. T'as, il dit, celui-là, il est de trop. Je le supporte pas. J'aurais préféré que le monde soit sans lui. Ça n'existe pas, ça. Chas v'chalila. Il n'y a pas un juif qui est de trop. Chaque juif a sa fonction dans le monde. Je l'ai compris ou je l'ai pas compris. C'est une autre question. Alors, c'est un effort. Par rapport à mon corps, je le comprends pas. Par rapport à mon âme, je peux le comprendre. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va plus développer cette idée, comment le corpus d'Am Israël est comparé à un grand corps. Et ça, en Bezrat Hashem, on rentrera plus dans les détails. Et surtout, on va rentrer dans des cas plus pratiques. Qu'est-ce qui se passe lorsque vraiment celui qui est en face de moi, c'est un cancre? C'est une personne qui m'a fait des crasses, d'accord? C'est une personne qui est très difficile à aimer. Alors, quand tu l'écoutes, bon, tu sais quoi, celui-là? Voilà. Comme a dit Abraham. Écoute, je fais comme si tu n'existes pas, je te déteste pas, mais dégage, d'accord? Hors de ma vie. Alors, t'as envie de dire ça? Comment te dire pour te dire non, je l'aime? Est-ce que c'est pas un peu crétin?
Je l'aime, mais quand il s'assoit là-bas.
Oui, de dire, il tend l'autre joue, on tend pas l'autre joue chez nous. Mais Avdil, alors comment ça marche? Où est le côté juif de cette mitzvah? Ça, c'est la semaine prochaine.
Est-ce qu'il y a une limite à l'amour du
prochain? Non. Pas de limite. Juste pour un peu. Il y a les exceptions, mais on verra la semaine prochaine.
On est dans un monde limité, c'est sûr qu'il y a
des limites. Gens, pendant, on parlait de la guerre, mais il y a des gens qui, pendant la guerre, préféraient rester avec leur communauté, rester avec leur calvitie, rester avec leur village, etc. Souffrir avec leur communauté jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il y a d'autres qui ont préféré partir. C'est pas un manque d'Avat Israël de partir?
Non. Par exemple, le rabbi précédent, il est resté pratiquement un an en Pologne. Mais quand il a vu qu'il n'était plus d'utilité et qu'il avait besoin de reconstruire, donc dès qu'il a une possibilité de partir, il est parti. Il a pris avec lui ce qu'il pouvait.
Donc ça veut dire que le futur, entre guillemets, la possibilité de faire quelque chose dans le futur est plus important que l'amour du prochain que je peux amener maintenant dans le présent.
Tu vas arriver à l'IA.
Oui ou non? Ça veut dire que
quand c'est un cas de danger.
Il y a des grands tzadikim comme Rabbi Wasserman qui ont pris la décision alors qu'ils avaient les billets pour les États-Unis, ils ont fait la décision de rester, oui. De mourir.
Dis-moi, Nochi Betsara. C'est une question.
Ah, tu peux pas savoir tant que t'es pas sur place.
Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas de danger mamache, il faut rester.
Ah, ben là, il y avait un danger.
Oui, c'est vrai.
Là,
c'est vrai, mais en restant.
Non, parce que ça a des